Nous avons parlé des quatre récits bibliques de l'institution de la Sainte Cène, c'est-à-dire les trois synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, plus le chapitre 11, partie du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Nous avons fait un rapprochement avec la Pâque, très rapide d'ailleurs, vu que l'institution de la Sainte Cène s'est faite lors de la dernière Pâque. À la Pâque se substitue un autre signe qui est la Cène. Nous avons vu aussi que le sens de cette parole du Seigneur, « Ceci est mon corps », qui signifie, sans qu'on ait besoin d'avoir recours à quelques subterfuges, qui signifie au contraire, en bonne exégèse, ceci signifie mon corps rompu, ceci représente mon corps. En araméen, je l'ai noté, d'ailleurs, il n'y a pas le verbe auxiliaire être, si bien que la traduction littérale serait ceci mon corps. Et c'est d'après le sens que le verbe est choisi. D'une manière générale, nous nous trouvons en présence, toujours, je l'ai remarqué il y a quelque temps, je le redis maintenant, puisque l'auditoire se transforme assez rapidement, nous sommes avec les écrits bibliques et particulièrement les paroles du Seigneur Jésus, nous sommes en présence d'un style elliptique, c'est-à-dire qui comporte ce qu'on appelle en grammaire, non pas en mathématiques, mais en grammaire, ce que l'on appelle une ellipse, c'est-à-dire la suppression de mots, d'un certain nombre de mots dans les phrases, mots qui ne sont pas indispensables à la compréhension. La compréhension se fait en somme par les mots essentiels de la phrase qui servent de jalons, n'est-ce pas ? Et cela était très utilisé dans les langues anciennes, dans l'araméen notamment, le style elliptique, qui ne prend pas, j'en ai donné déjà des exemples, il faut en somme, à partir de ce style, à partir de ces mentions qui sont rapides, n'est-ce pas, qui rapidement veulent situer la pensée, l'idée, il faut faire des périphrases pour arriver au style complet, au style exact. Nous allons ce matin aborder le sens profond de la Sainte Cène. Et pour cela, nous allons lire dans Jean, Évangile de Jean. Il y a des gens qui disent que le chapitre 6 de Jean, que nous allons lire en partie maintenant, doit être tenu distinct de la Sainte Cène. Je ne sais pas pourquoi il y a de telles injonctions qui sont faites par certains, parce que le sens profond de la Cène... Eh bien là, n'est-ce pas, la Cène est l'acte par lequel les disciples du Seigneur Jésus vont ensemble manger le pain, boire la coupe, comme l'a fait le Seigneur en instituant la Sainte Cène. Il s'agit de manger et de boire. Or, la coupe est la coupe de la nouvelle alliance fondée sur le sang du Seigneur. Le corps, le pain représente lui-même le corps, puisque Jésus a pu dire lors de l'institution de la Sainte Cène, ceci est mon corps, et par conséquent, n'est-ce pas, nous allons chercher le sens profond de la Sainte Cène dans ce passage de Jean 6 qui nous parle de manger la chair et de boire le sang. Alors, nous allons lire à partir du verset 28 au chapitre 6 de Jean, verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi ? Que fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, nous pourrions lire ici, contemple le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et il disait, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère ? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel ?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Jésus, dans cet enseignement effectivement très bousculant, il faut bien dire qu'il a bousculé bien des disciples et qu'il a bousculé même toute la chrétienté depuis son origine, à telle enseigne que l'on a vu se former des doctrines les plus aberrantes, comme celle du catholicisme, la transsubstantiation, ou celle de l'Église luthérienne, la consubstantiation. Et c'est donc un enseignement bousculant. Nous allons ce matin nous proposer de le pénétrer. Remarquons tout d'abord que Jésus met l'accent sur deux points forts de sa démonstration. Le premier, lui, Jésus, est une nourriture, qu'elle s'appelle pain de vie, pain de Dieu, pain vivant, ou qu'elle s'appelle chair et sang. Il est une nourriture. Je suis le pain de vie. Il faut manger ce pain. C'est le deuxième point fort, manger. Il est, lui, une nourriture, et deuxièmement, il faut manger cette nourriture. Voilà les deux points saillants de cet enseignement. Et on ne peut ni éluder, ni affaiblir l'un de ces deux points, comme d'aucuns l'ont tenté. C'est facile pour essayer de trouver un ajustement avec quelques notions satisfaisant notre esprit, alors on élude l'un des points. Par exemple, on voile un peu le fait que Jésus lui-même est une nourriture. Alors là, à ce moment-là, si c'est quelque chose d'autre, c'est plus facile à concevoir de manger cette nourriture. Ou alors, n'est-ce pas, on minimise le second point, manger. Alors, Christ est vu comme une nourriture, mais on ne veut pas avoir véritablement à envisager de la manger, cette nourriture. Évidemment, on a toujours devant soi, n'est-ce pas, l'acte concret, la manducation, disons, n'est-ce pas, du corps du Seigneur Jésus, et c'est ça qui choque, évidemment, ceux qui ne s'applique pas à la compréhension spirituelle de cet enseignement. Eh bien, pour comprendre cet enseignement, il y a deux voies, deux manières de comprendre. Et ces deux manières se complètent d'ailleurs, elles ne s'éliminent pas l'une l'autre. Nous allons examiner ce matin la première manière de comprendre. Je vais procéder assez doucement, assez lentement. Il est évident, n'est-ce pas, que cela requiert de nous une certaine attention. Il faut faire attention, il faut réfléchir. La méditation, c'est cela, n'est-ce pas? Alors, commençons par relever une assertion très importante pour cela dans l'Écriture, à savoir Philippiens, chapitre 2, verset 7. Alors, le sujet, je ne vais pas le rechercher dans le contexte au-dessus, mais il s'agit de Christ, n'est-ce pas, de Jésus. Alors, verset 7. « Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Une forme de serviteur. Nous savons bien qu'une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, nous savons bien qu'une forme de serviteur ou une forme de simple homme, ce n'est pas quelque chose qu'il faille voir comme une figure, n'est-ce pas? Il faut le prendre dans le sens littéral, car Jésus a bien paru effectivement comme un homme. Dans le verset précédent, le verset 6, il était dit de lui qu'il existait en forme de Dieu. Donc, il était réellement Dieu, puisque la forme d'homme, n'est-ce pas, ou de serviteur, dans une chair d'homme, elle a été réelle, elle a été tout à fait dans les réalités de ce monde sensible, de notre monde matériel, sensible. Par conséquent, Jésus existant en forme de Dieu, la réalité est la même. Le mot forme ne veut pas dire, n'est-ce pas, qu'il était quelque chose comme un Dieu, n'est-ce pas? Non, et qu'il était véritablement Dieu. Il existait en forme d'eux. En forme d'eux, l'expression en forme d'eux veut dire en réalité d'eux. Dans la réalité d'eux. C'est bien le sens, d'ailleurs, qui résulte du texte original lui-même. Et puis, nous avons dans Romains 8, Romains 8, verset 3, « Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. » Vous voyez ici le mot « chair », n'est-ce pas, figure trois fois. Bon, c'est très important. « Chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. » La chair, c'est-à-dire la nature humaine. Bon, l'occasion dans la seconde explication surtout de revenir là-dessus. La chair, la nature humaine, la rendait sans force, la nature telle de l'homme, telle qu'elle est, n'est-ce pas? Dieu a condamné le péché dans la chair, dans cette nature même, n'est-ce pas? Puisque Jésus a pris une chair semblable à celle du péché, moins le péché. Alors, Dieu a condamné le péché dans la chair, et en envoyant son Fils dans une chair semblable. Si bien que nous voyons déjà là l'importance que prend la chair, c'est-à-dire la nature humaine du Seigneur Jésus, dans cette œuvre qui est celle de la rédemption, du salut par une rédemption. Je ne vais pas vous faire aller encore à d'autres citations, il y en a d'autres, je vous les rappelle simplement de mémoire. Il est dit dans le début de l'évangile de Jean que la parole de Dieu, que Jésus, n'est-ce pas, est vu comme la parole de Dieu, qui était avec Dieu. Et la parole de Dieu a été faite chair, dit Jean, faite chair. Et enfin, il faudrait tout de même que nous le fassions dans la première épître de Jean. Il faut que nous y allions parce que c'est un texte trop important pour le négliger. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. » Relevez de ce passage ceci, c'est que la vie était bien auprès du Père. Mais la vie était quelque chose qui demandait dans le monde des hommes à être manifesté. Et c'est la chair, c'est-à-dire ce que nous avons entendu, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Ça, n'est-ce pas, c'est une allusion alors à l'usage des sens. Et par conséquent, n'est-ce pas, nous sommes bien dans le monde sensible, dans le monde physique. Eh bien, dans le monde physique, cette vie qui était auprès de Dieu a été manifestée. Comment ? Par le physique, par le corps du Seigneur Jésus. Alors, je résume cette première acquisition. Jésus a pris une forme dans le monde, une forme humaine, forme de serviteur, et c'est grâce à cette venue en chair. Et déjà, n'est-ce pas, nous découvrons l'importance de cette expression sur laquelle Jean, dans sa première épître, met un accent particulier, puisqu'il en fait un test même. Enfin, ceux qui croient que Jésus est venu en chair. Eh bien, grâce à cette venue en chair, grâce à cette manifestation de la vie dans une chair comme la nôtre, et c'est là que la vie pouvait se manifester, la vie par elle-même, n'est-ce pas, est un principe immatériel, est une puissance, une force, n'est-ce pas, n'en déplaise aux matérialistes, n'est-ce pas, mais elle est cela. Eh bien, la vie, donc, s'est manifestée dans une chair afin que l'expiation puisse se faire. Nous verrons que l'expiation ne peut pas se faire autrement que par le moyen d'une chair prise au milieu de l'humanité, une chair semblable. Il faut une participation de celui qui vient en tant que sauveur, une participation à la chair. Hébreux 10, verset 10, nous dit, Hébreux 10:10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, ça c'est une œuvre spirituelle, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, par l'offrande du corps. Ainsi nous sommes sanctifiés, c'est une œuvre spirituelle, c'est une œuvre de l'esprit, attention, c'est une œuvre de l'esprit sanctifiée. Et par quoi ? Par une réalité physique. L'offrande du corps. Jésus crucifié, c'est un corps supplicié. Il y a là une tragique réalité devant nous, et c'est de cette réalité tragique, on pourrait dire, comme l'a dit quelqu'un, extravagante, ah oui, exorbitante, injuste, puisqu'il s'agit d'un juste, le vrai et le juste qui est puni, n'est-ce pas, qui est frappé, eh bien, c'est par cette réalité qu'est la crucifixion de Jésus que la rédemption est obtenue, que la sanctification, c'est-à-dire la purification des hommes pour la vie éternelle, pour l'accès à la vie éternelle, est accomplie. Alors, je suis obligé, bien sûr, même si je fais quelques petites digressions, elles sont nécessaires. Ce sont des digressions que je ne manque jamais l'occasion de faire, parce que on oublie vite. Il y a des choses qu'on oublie vite, et qui pourtant sont importantes, il faut les redire. Le salut, d'après ce que nous venons de voir, même, ne peut pas être l'adhésion à un concept religieux. Ne peut pas être l'adhésion à une doctrine. Mais pour être sauvé, il va devenir indispensable, et nous allons voir ici combien il est indispensable, d'incorporer Christ. Nous allons voir comment on va l'incorporer, mais il est indispensable de faire cela. La doctrine ne sauve pas, nous avons eu déjà l'occasion de le dire, c'est pas une doctrine qui sauve, et par conséquent, n'est-ce pas, beaucoup de gens se méprennent à ce sujet-là, concernant le christianisme, ils voudraient, n'est-ce pas, être sûrs que dans telle ou telle formation du christianisme, et il y en a beaucoup, on puisse découvrir celle qui entretient la doctrine la plus juste, la meilleure. Mais ce n'est pas une doctrine qui sauve. La doctrine, c'est quoi? Mais c'est un ensemble de panneaux indicateurs. C'est un itinéraire. Et l'itinéraire n'est pas à confondre avec la destination. Il faut aller à la destination. À quoi nous servira un itinéraire si nous n'allons pas à la destination? La destination, eh bien, c'est de trouver Christ, lui-même, la personne de Christ, avec son œuvre, avec sa victoire, avec tout ce que Dieu a mis en lui. Et c'est ça le salut. Prendre cela, expression tellement vive et remarquable de Paul, qui est celle-ci, j'ai saisi Christ, j'ai pris, comme j'ai pu, et comment ai-je pu faire ça? Avec la foi, nous dira-t-il, avec la foi, n'avait que ça, et c'est avec ça que Dieu voulait que je prenne Christ, et je l'ai saisi, je l'ai pris. Pour être sauvé, il est donc indispensable, je dis ici d'incorporer, parce que cela nous prépare à la suite de l'explication. Lorsque Christ, toutefois, se présente comme, dans l'épître de Pierre, une semence, sous la forme d'une semence, une semence incorruptible, n'est-ce pas? Alors, son incorporation, bien que ce soit une réalité spirituelle, de nature spirituelle, son incorporation est facile à envisager. Mais si Christ, par contre, se présente, comme c'est le cas dans cet enseignement de Jean 6, si Christ se présente en sa nature humaine, dans le concret de sa vie humaine, l'incorporer en le mangeant, alors là est une chose qui nous arrête, comme elle a arrêté les disciples qui entendirent cela. Pour la première fois, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Les Juifs disputaient, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» C'est une chose qu'on ne peut pas accepter comme ça, surtout, n'est-ce pas, en ce temps-là, les auditoires n'étaient pas particulièrement portés à rechercher la signification dans l'abstrait ou dans une valeur spirituelle, n'est-ce pas ? Ils la voyaient surtout dans le monde concret. Les choses étaient, on parlait beaucoup plus dans le monde concret, n'est-ce pas, que peut-être que maintenant. Maintenant, on a une habitude mieux exercée de l'abstrait. Alors, manger quelqu'un qui est là, qui dit que sa chair va être donnée à manger et son sang comme un breuvage. Mais rassurons-nous, cette action de manger le Seigneur sera une opération purement spirituelle, bien sûr. Elle sera une opération spirituelle, mais sans cesser d'être une réalité. C'est là, n'est-ce pas, que dans notre, manière souvent de comprendre, de classer les choses qui nous sont dites, il y a une faiblesse, c'est que dès que nous parlons un petit peu trop de choses spirituelles, nous détruisons la réalité. Il faut, n'est-ce pas, se représenter qu'une chose étant spirituelle, c'est-à-dire dégagée, si vous voulez, de la matière. Elle n'en cesse pas pour autant d'être une réalité, tout au contraire. Et ça, c'est une grande éducation que devraient recevoir les chrétiens. Il faudrait qu'ils soient très conscients. Et il faudrait, en somme, refaire un peu son esprit d'homme, n'est-ce pas ? Être très conscient que les réalités premières, les réalités déterminantes même, se trouvent dans le monde immatériel, dans le monde de l'esprit. La Bible nous présente bien deux grands domaines, qu'elle appelle terre, qu'elle appelle ciel, ou qu'elle appelle le monde visible et le monde invisible. Et dans le monde invisible, Dieu, Jésus-Christ, a fait des créations, nous dit l'Épître aux Colossiens. Il y a donc des réalités. Et la manducation, si je puis dire, n'est-ce pas, l'action de manger Jésus-Christ, est une opération spirituelle, bien sûr, mais attention, elle est une réalité. Alors, quelqu'un ici pourrait dire, mais alors, le Seigneur aurait été plus facile à comprendre s'il s'était exprimé autrement, et s'il nous avait tout de suite dit qu'il s'agissait d'absorber son esprit et de recevoir sa vie, n'est-ce pas, de boire sa vie, puisque à chair et à sang on peut faire correspondre ce que nous avons lu dans le verset 63, les mots « esprit et vie ». Ah, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ainsi, n'est-ce pas, on peut faire tout de suite une correspondance, établir une correspondance entre chair et esprit, entre sang et vie. Vous savez que dans la Bible, la vie est dans le sang. Alors, pourquoi le Seigneur, donc, a-t-il employé ce langage saisissant de la chair et du sang à manger et à boire? Et pourquoi ne s'est-il pas servi d'un langage un petit peu plus spirituel, plus proche de la réalité? Eh bien, c'est que le Seigneur ne pouvait pas s'exprimer autrement. Non seulement le Seigneur s'exprimait pour ses contemporains, et de même pour tous les âges à venir, sous une forme telle que la vérité ne pourrait pas être déplacée, que la vérité allait être magnifiquement conservée, c'est le langage en parabole surtout, non seulement cela, mais nous allons voir qu'il ne pouvait pas, en l'occurrence, s'exprimer de manière différente. Pour comprendre, faisons bien attention à ce que nous dit Jésus dans le verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Il faut expliquer un petit peu cela. La chair ne sert de rien. Ce n'est pas la chair elle-même ou quelque chose qui va la remplacer dans le dogme de la transsubstantiation, c'est-à-dire une hostie, n'est-ce pas, un petit morceau de pain, n'est-ce pas, ou de farine en forme d'hostie, n'est-ce pas, ce n'est pas la chair elle-même, ce n'est pas une matière. Ce n'est pas une matière, n'est-ce pas, qui est quelque chose. Et ce n'est pas une matière que Christ nous propose de manger, puisque à chair correspond esprit, à sang correspond vie. Il y a donc à manger l'esprit de Christ et à boire sa vie. Cela, c'est vrai. On pourrait se dire, bah, bon, alors voilà l'explication. Manger la chair de Christ, c'est manger son esprit. C'est donc une opération, évidemment, qui se fait en nous, dont nous n'avons pas le contrôle, puisque, n'est-ce pas, nous exercerons la foi, simplement, et puis en exerçant la foi, n'est-ce pas, dans le cadre de la doctrine qui sert de cadre, n'est-ce pas, nous exercerons la foi, et alors, à ce moment-là, nous absorberons l'Esprit de Christ. Nous ne savons pas comment la chose se fera, elle se fera, c'est certain, dans le mystère des accomplissements de Dieu. Mais nous pourrions déjà être satisfaits en disant il s'agit de manger en somme l'Esprit de Christ et de boire sa vie. Mais nous n'avons pas répondu à cette question. Pourquoi alors ce qui est esprit et ce qui est vie, le Seigneur ne les désigne pas par esprit et vie au lieu de les désigner par chair et par sang? Alors qu'il dira ici, la chair ne sert de rien. Pourquoi donc parler de la chair? Parlons de l'esprit, parlons de la vie, puisque la chair ne sert de rien. C'est là qu'il y a déjà quelque chose à comprendre, et même quelque chose d'important à comprendre. La matière dont le corps est fait n'a pas de valeur par elle-même. Nous regrettons beaucoup pour M. Teilhard de Chardin, et qui composait une ode à la matière. Ô sainte matière. Je ne sais pas comment il pouvait être savant et théologien dans ces conditions-là, n'est-ce pas ? Il était surtout subjugué par un matérialisme qui l'aveuglait. Il était dans l'aveuglement. Ô sainte matière, la chair ne sert de rien. La matière du corps n'a pas de valeur absolue par elle-même. Le corps n'est que support de vie. Le corps est support de vie. Lui-même a une vie qui est d'ordre physique, mais il est support d'une vie plus haute que la vie physique. Il est support momentané d'individualité. Il est le support de l'individualité, mais il n'est pas, lui, l'individualité. L'individualité, ce n'est pas le corps. Que donnerait un homme pour son âme? Que donnerait-il pour son âme? Et s'il meurt, voilà, et qu'il n'ait pas pensé à son âme, il n'ait rien fait pour son âme, alors, parce que lui, c'est son âme, ce n'est pas son corps. Et nous le voyons très bien aussi cela, j'insiste sur ces points-là parce que je pense à des hérésies du moment, n'est-ce pas, notamment à, par exemple, aux thèses adventistes, aux thèses aussi du monde à venir, qui fait des émissions à la radio, qui ne veulent pas, en somme, que l'âme puisse se détacher du corps. Quand il y a mort, selon, ce sont pourtant, n'est-ce pas, des chrétiens qui se veulent évangéliques et qui s'appuient sur la Bible, alors quand le corps meurt, il y a cessation de tout. Pour eux, n'est-ce pas, il y a cessation, ce qui n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Dans la parabole du riche et du pauvre Lazare, et c'est le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, qui la prononce, on ne peut pas dire que Jésus va nous induire en erreur. Il nous dit que les deux moururent, d'abord Lazare, et puis Lazare fut porté dans le sein d'Abraham par les anges. Lazare fut porté. Vous pourriez dire, mais non, voyons Lazare. Il est mort. Alors on a mis son corps dans la fosse commune, parce qu'on ne lui a pas fait d'inhumation à lui, n'est-ce pas? Comme aux riches. Alors on l'a mis dans la fosse commune. Son corps est là, c'est lui qui est là, c'est lui, c'est son corps. Diront, n'est-ce pas, les hommes avec leur manière de concevoir les choses, n'est-ce pas, leur manière, la manière courante. Mais il est là, il est mort, il est dans la fosse. Mais Jésus nous dit non, il est porté par les anges. Et qu'est-ce qui est porté? C'est son âme. C'est quelque chose d'immatériel qui s'est détaché de lui, c'est son âme. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et ce qui est là, c'est pas lui. Ce qu'on a mis dans la fosse, ce n'est pas lui. Vous voyez, l'individualité est attachée à l'âme. Maintenant, disons donc que le corps n'est que le support momentané de l'individualité, il est support de la vie. Cependant que le corps de Jésus fut nécessaire, car le corps de Jésus fut le siège de la manifestation de l'Esprit dans une œuvre appelée rédemption. Ce qui a force et ce qui a éternité, ce n'est pas le corps. Le corps n'a pas force, j'entends force absolue. Il n'a pas éternité. Ce qui a force et éternité, c'est l'Esprit. Ce sont donc les actes de l'Esprit qui ont force et valeur absolue. Les actes de l'Esprit. Les actes de l'Esprit. Et c'est dans le contexte ici, c'est-à-dire dans le même chapitre 6 et au verset 27, Jésus nous disait bien, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il y a des choses qui sont par nature éternelles, d'autres qui sont passagères, éphémères, périssables. Eh bien, tout ce qui est fait par l'Esprit, avec un grand T, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, tous les actes qui sont faits à travers et par le moyen même d'un corps, ces actes-là ont valeur absolue et éternelle. Autrement dit, l'Esprit de Dieu ne fait jamais rien qui meure, rien qui se perde. Le corps du Christ a été le moyen des actes de l'Esprit. Ce corps du Seigneur a été le creuset où une humanité nouvelle s'est élaborée. Une chair semblable à celle du péché, moins le péché, et dans cette chair, par le travail de son âme, dira Ésaïe 53, par le travail qui s'élabore, qui se fait au cours du ministère, à Gethsémané, au calvaire, ce travail qui se fait s'élabore une nouvelle humanité, dont nous reparlerons surtout dans la deuxième explication. C'est le creuset où l'homme nouveau, il est appelé l'homme nouveau dans les Éphésiens, l'homme nouveau s'élabore. Il n'existe pas cet homme nouveau avant. Il faut qu'il s'élabore. Alors, pour s'élaborer, il va prendre, bien entendu, de cette humanité perdue, de cette humanité de la chute, de cette humanité du premier Adam, il va prendre, parce qu'il n'y aurait pas continuité. Il y aurait, n'est-ce pas, une solution de continuité, une rupture. Si Jésus ne prenait une chair semblable à celle du péché, il faut donc qu'il y ait continuité, il prend ça. Mais, là, dans cette humanité, cette forme qu'il a prise, cette forme de simple homme, d'esclave, là, va s'élaborer, et cela par le travail de l'Esprit, l'homme nouveau. L'homme nouveau qui va sortir à la résurrection, et qui, montant vers le Père, va là, n'est-ce pas, recevoir en quelque sorte le sceau d'éternité, si je puis dire, n'est-ce pas, va recevoir la lumière d'éternité, et là, auprès de Dieu, à la droite de Dieu, c'est pourquoi il est dit d'ailleurs à la droite de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, il y a un homme. Un homme! Ben non, ne nous empêche pas, bien sûr, n'est-ce pas, de voir la divinité de Jésus, mais nous ne pouvons pas raisonner de par la divinité. La divinité, c'est une chose acquise, mais ce que nous voulons voir, c'est l'œuvre de la rédemption et l'élaboration de cet homme nouveau, à l'image duquel nous serons nécessairement appelés, nous sommes appelés, mais image que nous aurons à revêtir pleinement, même le corps de résurrection, dit les Philippiens, n'est-ce pas? Alors, il y a là, dans l'humanité de Jésus, élaboration de l'homme nouveau. Et cette élaboration va se faire dans le creuset qu'est l'humanité de Jésus, va se faire en détruisant le péché et la mort qu'apporte l'ancienne humanité, hein, l'humanité du premier Adam, détruire le péché et la mort, comment? Par l'obéissance, nous dit l'Épître aux Hébreux, par une lutte. En somme, le premier Adam a fait tomber l'homme de sa position où il était de par la création. Hein, il l'a fait tomber vers le bas. Jésus vient dans le bas chercher l'homme tombé pour le remonter, remonter vers le haut les captifs. Et cela en travaillant dans sa propre personne, dans cette chair qu'il a prise, cette chair humaine qu'il a prise, comme d'ailleurs le premier Adam, c'est bien dans sa chair aussi, c'est bien dans sa personne qu'il a fait tomber toute l'humanité. Ce que nous dit l'Épître aux Romains. Et le corps de Jésus a donc été le siège de cette élaboration de l'homme nouveau à travers la mort. Et ce siège, ce creuset, si vous voulez, n'est-ce pas, j'essaie d'employer différentes figures, ce siège, ce creuset du qu'a été le corps de Jésus, eh bien, une fois que la rédemption est obtenue, une fois que le tout est accompli et prononcé, n'est-ce pas, eh bien, ça ne sert plus à rien. La chair ne sert de rien. Ça ne sert plus, n'est-ce pas? Il disparaît. Par conséquent, Jésus de dire, en somme implicitement, « Mais je ne peux pas vous donner ma chair à manger, la chair ne sert de rien une fois que j'ai accompli la rédemption, que j'ai prononcé sur la croix, tout est accompli. » C'est fini. Vous n'avez pas mangé, ma chair, elle a servi, n'est-ce pas? C'est comme, si vous voulez, se creuser dans lequel, n'est-ce pas, on aura élaboré quelque chose nouveau, quelque entité nouvelle, et puis alors, n'est-ce pas, le creuser, ben, on le laisse de côté, on n'en a plus besoin. La chair ne sert de rien. Alors, ce siège qu'a été, ce siège de l'action de l'esprit qu'a été le corps de Jésus disparaît, mais la chose manifestée, la vie manifestée, mais la vie de l'homme nouveau subsiste, la réalité spirituelle d'un salut subsiste, alors que la chair qui a servi à cela disparaît. Ah. La crucifixion de Jésus est une chose historique qui est bien loin de nous, n'est-ce pas, 1940 années environ, n'est-ce pas, elle est bien loin de nous, et puis oui, pourtant la réalité du salut est là, présente, accessible, elle subsiste. Saisir Christ, j'ai rappelé cela tout à l'heure de l'apôtre Paul, saisir Christ, pour saisir le salut, il faut donc saisir Christ, c'est-à-dire le manger. Dans un sens spirituel, c'est-à-dire l'incorporer en esprit, ou c'est-à-dire encore, entrer dans la communion. Voulez-vous, par exemple, relire avec moi le Jean 6, 56 ? Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, demeurer en moi ? C'est entrer dans la communion. Entrer dans la communion. C'est pour ça qu'on appelle l'Eucharistie aussi la communion, c'est un peu pour ça. Le Père qui est vivant, verset 57, comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Alors, il y a la communion, et il y a ce que l'apôtre Paul traduit d'une façon, n'est-ce pas, brève, mais parfaitement explicite, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà, n'est-ce pas, ce qui se passe lorsque l'on mange Christ dans un sens spirituel, qu'on l'incorpore en esprit, on entre dans la communion et il y a substitution alors d'une vie à l'autre. Dans l'apôtre Paul qui dit cela, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, je suis Paul. Extérieurement, je suis bien Paul, n'est-ce pas, celui que vous avez connu comme Saul de Tarse, même autrefois, je suis cela, n'est-ce pas, mais ce n'est plus moi qui vis. Il y a conjugaison, là, de deux vies,
Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est le grand mystère, c'est appelé le mystère de Christ. Comment Jésus pouvait-il exprimer cela? Faut que j'en revienne à ma question, pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit carrément, eh bien, entrez dans ma communion, prenez mon esprit et ma vie, n'est-ce pas? Eh bien, comment Jésus pouvait-il exprimer cela? Si Jésus avait dit, mangez ou absorbez ou incorporez mon esprit et ma vie, nous aurions peut-être aujourd'hui, mieux compris, hein, au lieu de dire manger ma chair et boire mon sang. Mais il aurait alors employé un langage cryptique, un langage inexact. Et Jésus ne peut pas. Il est obligé d'avoir recours à ce qui fait peut-être, mettons, un peu image, n'est-ce pas, chair et sang, tout en serrant la réalité de près. Mais il ne pouvait pas parler directement de l'esprit et de la vie pour la bonne raison. C'est que personne ne peut établir la communion avec Dieu directement. Et ceux qui auraient lu ça, n'est-ce pas, se disent, ah bon, il est Dieu, il apporte, bon, alors on va établir la communion avec Dieu, oui, oui, nous voulons bien avoir une relation avec Dieu, mais la communion avec Dieu directement est chose impossible à l'homme pécheur, à l'homme qui est séparé de Dieu, parce que la séparation d'avec Dieu est irrévocable, irrévocable, elle est irréversible, irréversible, pour réunir en un, ceux qui sont à sanctifier les hommes pécheurs, et le Dieu saint, soyez saints comme je suis saint, le Dieu saint, n'est-ce pas, et réunir en un, comme nous le dit la prière sacerdotale de Jean 17, qu'ils soient un comme toi et moi, Père, nous sommes un, que, n'est-ce pas, Jésus veut être un avec ses disciples, comme il est un avec le Père. Autrement dit, n'est-ce pas, il nous fait entrer à travers lui dans la communion du Père. Mais vouloir entrer dans la communion de Dieu, et c'est ça la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent, toi, c'est-à-dire qu'ils aient relation intime avec toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais pour entrer dans la relation avec Dieu, n'est-ce pas, il fallait un intermédiaire, il fallait un médiateur qui vienne sur la terre, non pas avec des paroles seulement, Jésus a été prophète, nous aurons l'occasion de le voir dans une autre étude, non avec des paroles seulement, mais qu'il vienne comme un homme, qu'il vienne dans une chair semblable. Or, l'incarnation, ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire la parole de Dieu faite chair, or, cette incarnation, Dieu ne pouvait ni pardonner, ni rétablir la communion. L'incarnation seule permettait cela. Et c'est pourquoi, je le redis, Jean insiste dans sa première étude sur cela, n'est-ce pas, Jésus venu en chair, celui qui croit que Jésus est venu en chair. Vous voyez comme c'est beaucoup plus profond qu'on ne peut le comprendre à première vue. Ainsi, Jésus ne pouvait parler de réaliser la communion avec Dieu et par conséquent d'avoir la vie éternelle qu'en réconciliant, qu'en abolissant la cause de la séparation d'avec Dieu, réconciliant les hommes avec Dieu, n'est-ce pas? Et les réconciliant, comment faire? Par le sacrifice. Et pour faire le sacrifice, que faut-il? Une chair semblable à celle de l'homme, n'est-ce pas? Une chair. Alors, ce n'est pas Dieu qui meurt au calvaire. Ce n'est pas Dieu qui meurt, mort quant à la chair et vivant quant à l'esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas Dieu qui meurt, à la chair Dieu ne peut pas mourir, n'est-ce pas? C'est la nature humaine où Dieu était là pour réconcilier les hommes avec lui-même, cette nature humaine qu'il a prise comme un creuset ou comme un temple, n'est-ce pas? C'est ça qui meurt, à la croix du calvaire, la chair est rompue. La chair du juste, la chair de Jésus est donnée pour que le monde soit sauvé, selon l'expression du Seigneur. Elle est donnée pour que l'Esprit de Dieu entre dans le pécheur pardonné. Par cet intermédiaire, par cette élaboration. En somme, la vie de Dieu, et par conséquent la relation avec Dieu, est présente dans le Christ, et c'est pour ça qu'il faut que le Christ soit Dieu. S'il n'est pas Dieu, vous détruisez tout. Alors, la vie de Dieu est en lui, n'est-ce pas? Mais, attention, Elle ne peut pas, cette vie de Dieu, elle ne peut pas être communiquée directement au pécheur, à l'homme pécheur. Impossible, il est séparé. Une séparation irrévocable. Alors, que faut-il? Il faut une réparation, une réconciliation, il faut un sacrifice, il faut la chair rompue, mais la chair étant rompue, le sacrifice étant obtenu, alors il y a un plein pied entre le Christ et l'homme et les autres hommes. Il y a un plein pied, il y a un accès ouvert. Alors la vie de Dieu dans le Christ passe par ce canal et va dans les hommes. Mais il faut que les hommes prennent le Christ. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il faut qu'ils le prennent. La chair a servi. En somme, elle a servi. Elle ne sert plus de rien une fois que la réalité spirituelle est là, mais elle a servi. Je vous cite rapidement, sans vous donner toutes les références, mais ça c'est une simple citation que je fais des Écritures. La chair a servi à faire connaître Dieu. Elle a servi à manifester la gloire de Dieu. Elle a servi à manifester la grâce, 2 Timothée 1, 8 et 10, 8 à 10. Elle a servi à manifester la vie et l'immortalité. La chair a servi à manifester l'amour de Dieu. La chair a servi à manifester la justice de Dieu. La chair a servi à confirmer les promesses, dit encore Romains 15 et au verset 8. Alors, comme Pierre l'a dit quand il a entendu lui aussi ces paroles, n'est-ce pas étrange sur le moment? Manger ma chair, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Pierre a été saisi comme les autres, il n'a rien compris, mais il a dit au Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Manger la chair et boire le sang sont les paroles de la vie éternelle. Les termes saisissants, chair et sang, signifient qu'il faut que le Christ... Son sacrifice étant accompli, son sacrifice étant la rédemption, étant attaché à sa personne, n'est-ce pas? Il faut que Christ entre dans l'homme justifié. Non pas un Christ spiritualisé, on aurait toujours tendance à le dégager, n'est-ce pas? De l'œuvre qui a été faite par le moyen de la chair, non pas un Christ spiritualisé qui serait hors de toute vérité, mais le Christ venu en chair, et l'insistance de Jean est remarquable. Voyez qu'elle contient une insistance qui prévient des hérésies. Hérésies qui ont souvent consisté, n'est-ce pas, à vouloir, je vous dis, éthérer les choses, n'est-ce pas, éthérer les vérités présentées sous forme concrète. Donc, ces termes saisissants, chair et sang, signifient qu'il faut que le Christ entre dans l'homme, vraiment dans l'homme qui est justifié. Le Christ, quel Christ? Le Christ venu en chair, le Christ qui a souffert dans sa chair, un fils de l'homme. Christ est devenu un esprit vivifiant, nous dit un autre texte, 1 Corinthiens 15, un esprit vivifiant, et il est en somme l'os et la chair, les os et chair, os et chair de ses disciples. Vous savez que on disait volontiers, par exemple, autrefois, mettons le peuple à l'adresse du roi David, tu es os de nos os et chair de notre chair, n'est-ce pas? C'est une expression qui était là dans l'Ancien Testament, eh bien, elle est figurative, elle n'est pas à négliger. Eh bien, il faut que Christ soit, cela entendu dans un sens spirituel, mais attention, sans écarter l'œuvre qu'il a faite par le moyen de sa chair, il faut qu'il soit os et chair de ses disciples. Et quand tout sera accompli, les disciples... N'est-ce pas? Après la résurrection, seront entièrement semblables, ils porteront l'image du Christ, c'est-à-dire, n'est-ce pas, qu'ils seront tous sur le type de l'homme nouveau, dont Christ est aujourd'hui l'archétype, n'est-ce pas? Ils seront tous sur le type de cet homme nouveau qu'est Jésus. Les disciples et Jésus, d'ailleurs, l'Église, donc tous les disciples, doivent devenir une seule chair, et cela c'est Paul qui nous le dit dans Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors attention, ça, c'est une réalité de la société humaine, n'est-ce pas? Une réalité qui porte en elle la prophétie d'une haute réalité. Ce mystère est grand. Attention, il y a un mystère sur tout mariage, n'est-ce pas, qui répond à ce principe rappelé par Paul ici. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Et même Jésus a ajouté, ils ne seront plus deux, ils sont un seul. Ce qui veut dire tout de suite, n'est-ce pas, attention, parce que on va passer de la réalité sociale, si vous voulez, du mariage, n'est-ce pas, à une réalité plus haute. Et de nature spirituelle, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Christ et l'Église sont une seule chair. Voilà, n'est-ce pas, quelque chose qui doit nous permettre de mieux comprendre pourquoi le Seigneur Jésus a employé ce langage de chair et de sang. Le disciple participe à la nature divine de Jésus, il participe à sa mort, il participe à sa résurrection, et par conséquent, n'est-ce pas, il participe à toute l'œuvre qui a été faite dans la chair de Jésus. Pourquoi ? Pour vivre de sa vie.